Il est 14h ici à Washington DC, 21h à Goma dans l'est de la RDC. Eric Manelakiza avec vous au micro de VOA Afrique. Bonsoir et bienvenue. Merci d'écouter les nouvelles du monde en 5 minutes. La ministre congolaise des Affaires étrangères a accusé ce dimanche à l'ONU le Rwanda d'avoir fait passer de nouvelles troupes à l'est de la RDC, une déclaration de guerre qui appelle selon elle des sanctions du Conseil de sécurité. La ministre Thérèse Kayikwamba Wagner a demandé au Conseil d'exiger le retrait des troupes rwandaises et d'imposer des sanctions économiques et politiques contre le Rwanda. Des combats se déroulent ce dimanche à une poignée de kilomètres de la ville de Goma, selon des sources sécuritaires concordantes. Voitures et motos circulent, mais la plupart des commerces sont fermés. Des pillages par des miliciens pro-Kinshasa ont été signalés dans des quartiers périphériques, selon la société civile. À mesure que les combats se rapprochent de nouvelles colonnes de déplacés affluent. Les Nations Unies ont commencé à évacuer certains de leurs personnels de Goma. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé leurs ressortissants à quitter la ville tant que l'aéroport et les frontières sont ouverts. Au moins 27 soldats nigérians ont été tués dans le nord-est du pays dans un attentat suicide djihadiste, ont indiqué ce dimanche de sources militaires, ce qui constitue l'un des attentats suicides visant des soldats les plus meurtriers de dernières années. Vendredi, l'armée a lancé une offensive terrestre contre un bastion de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le triangle de Tombouctou, une zone à cheval entre les États de Borno et de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé dimanche son quartier général à Khartoum, qu'il avait dû abandonner en août 2023, à ses rivaux paramilitaires des forces de soutien rapide. Ce retour intervient 2 jours après une attaque de drone contre le principal hôpital d'El-Fasher, la capitale du Darfour Nord, dans l'ouest du Soudan, assiégé par les FSR, qui a fait 70 morts. La reconquête de son QG est la plus grande victoire de l'armée dans la capitale depuis la reprise d'Omdurman. L'armée soudanaise contrôle, selon des témoins, la majeure partie de Bari, Khartoum Nord, ainsi que le nord et le centre d'Omdurman. Le Hamas et son allié, le djihad islamique, ont vivement critiqué ce dimanche la proposition du président américain Donald Trump de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie pour faire le ménage, selon lui, dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas encore réagi à la proposition américaine, mais un ministre d'extrême droite l'a qualifié d'excellente idée, affirmant que les Palestiniens pourraient établir une nouvelle et belle vie ailleurs. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a réaffirmé le rejet de son pays d'un déplacement forcé des Palestiniens. La Jordanie est pour les Jordaniens et la Palestine est pour les Palestiniens, a déclaré Ayman Safadi. L'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a aussi condamné tout projet visant à déplacer les Gazaouis. Après le Brésil, la Colombie a exigé dimanche des États-Unis qu'ils traitent avec dignité les migrants expulsés, tout en annonçant avoir refoulé des avions militaires américains qui transportaient des migrants colombiens. Nous accueillerons nos ressortissants dans des avions civils sans les traiter comme des criminels, a déclaré le président de gauche Gustavo Petro sur le réseau X. L'armée ukrainienne a revendiqué dimanche une frappe de drone nocturne sur une raffinerie dans la région russe de Razian au sud de Moscou, la deuxième attaque sur le site en moins d'une semaine. Deux des plus grandes icônes de la musique britannique, Paul McCartney et Elton John, ont appelé dimanche le gouvernement britannique à mieux protéger les artistes contre l'intelligence artificielle au moment où l'exécutif envisage une réforme du droit d'auteur. Le projet du gouvernement travailliste veut introduire des modifications dans la loi sur le droit d'auteur, dont une exception au droit d'auteur pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle à des fins commerciales. Le projet offrirait parallèlement aux créateurs la possibilité de réserver leurs droits. Paul McCartney, 82 ans, soutient qu'avec une telle réforme, les artistes perdront le contrôle sur leur production. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain, c'est dans 2 heures.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous à ce micro. Joselle Morissin assure la réalisation de cette édition de ce soir qui est consacrée à un monument emblématique de l'histoire africaine, le tombeau des Askia situé à Gao au Mali. Ce site construit en 1495 par l'empereur Askia Mohamed ne représente pas seulement un témoignage de la grandeur de l'empire Songhai, mais il incarne également une profonde spiritualité. Ce soir, nous allons explorer un aspect souvent méconnu de cette histoire, l'influence du soufisme dans l'empire Songhai et son lien avec le tombeau des Askia. Le soufisme, avec ses pratiques mystiques, a laissé une empreinte significative sur les communautés musulmanes locales et de la région. Avec nous, notre invité, l'historien professeur Mohamed Mbodj à l'université Manhattanville University à New York, ici aux États-Unis, et qui est aussi spécialiste des religions. Professeur Mbodj, bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions.
Bonsoir.
Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est le soufisme ?
Alors, le soufisme, bien entendu, il y a plusieurs origines qu'on lui prête. La première qui semble être, disons, l'histoire de l'humanité d'une manière générale, c'est que les gens, lorsqu'ils pratiquent une religion, sont souvent attirés par ce qui n'est pas écrit ou n'est pas pratiqué de façon ouverte, c'est-à-dire la face cachée de la religion. Donc la spiritualité, on cherche à se rapprocher de Dieu avec des pratiques qui ne sont pas, disons, évidentes, qui ne sont pas les pratiques de tout le monde au départ. Donc, c'est un peu comme ça que le soufisme peut être interprété comme une sorte de démarche surnaturelle. Mais dans l'histoire des religions, d'une manière générale, il y a toujours eu une sorte de formalisation de cet aspect, c'est-à-dire comment se rapprocher de Dieu sans pratiquer ou au-delà de la pratique ordinaire de tout le monde. Et nous savons que du temps même de l'ancienne Égypte, il y avait déjà des ermites qui se retiraient dans le désert pour pratiquer la réflexion de façon périodique et même quelquefois de façon permanente pour revenir ensuite dans la société en général, quelquefois avec des expériences d'avoir été en présence des dieux ou d'avoir appris de nouvelles spiritualités, quelquefois transformées en nouvelles prières, en nouvelles façons de, disons, de dévotion. Et donc, cette pratique est ancrée dans l'histoire des humains lorsqu'ils ont pratiqué des religions sophistiquées. Lorsque l'islam est venu, eh bien, cette même tendance s'est poursuivie. Donc, des gens ont pensé que la pratique, disons, mécanique de la religion n'était qu'une base et qu'il fallait plus, et en particulier une spiritualité plus relevée qui vise à se rapprocher de Dieu, même de se retrouver dans la présence physique de Dieu. Donc c'est pourquoi le soufisme apparaît très tôt dans l'islam et n'est pas quelque chose, disons, fabriqué par des philosophes par la suite, comme certains historiens le pensent. Nous savons déjà qu'il y avait des pratiques qu'on peut maintenant appeler soufis avant l'islam en Égypte. Nous savons qu'il y a des pratiques avant le soufisme, mais équivalentes en Perse, c'est-à-dire dans l'Iran actuel. Et bien entendu, des pratiques qui, même si elles ne sont même pas musulmanes pour l'instant, par exemple dans le nord de l'Inde, qu'on peut qualifier de soufis. Et lorsque ces gens se convertissent à l'islam, il donne un contenu musulman à des pratiques qui fondamentalement sont les mêmes. Et je me répète ici, la volonté de trouver des moyens d'être un peu plus proche de Dieu, spirituellement ou même physiquement, en ajoutant des pratiques ou des dévotions. Voilà.
Alors, quelles sont les principales confréries soufis qui ont influencé l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Empire Songhai à l'époque d'Askia Mohamed?
Alors, les principales confréries en Afrique de l'Ouest, c'est bien entendu la Khadria, la Tijaniya, et c'est en particulier la Tijaniya elle-même va se diviser en différentes branches. Et donc, on peut se retrouver avec des multitudes de branches soufis, et on peut même dire que nous avons toujours des soufis qui vont inventer de nouveaux horizons, de nouvelles voies. Mais le soufisme le plus ancien qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest est donc la Khadria. Alors la Khadria vient donc de l'Irak avec Cheikh Abdel Khadr Al-Jailani, qui est donc un homme saint à l'époque abbasside, et qui est crédité d'avoir vécu une façon exemplaire entre 1070 et 1160 à peu près, et qui est donc un saint qui a créé donc une confrérie, qui a créé un ordre mystique basé sur la religion, selon l'interprétation Hanbali à Bagdad. Alors, donc, son petit cercle est devenu extrêmement important, bien entendu, parce que il faut se souvenir que Bagdad, à l'époque, c'était comme, je ne sais pas, New York, le Vatican, le Paris, c'est tout ça. Donc, se retrouver dans Bagdad, c'est tellement l'une des villes les plus peuplées au monde. La capitale de l'Empire Abbaside, qui était certainement l'empire le plus puissant à ce moment-là au monde, peut-être en concurrence avec l'Empire chinois. Et donc, une énorme fabrique d'idées intellectuelles, avec la maison de la sagesse, qui est un peu le précurseur des think tanks, comme ils appellent maintenant, c'est-à-dire des gens qui sont dévoués à la recherche et à la recherche seulement, et qui sont fondés, qui sont soutenus par l'État, et qui produisent des livres, des articles, qui traduisent des livres et des articles venant d'autres horizons, qui discutent entre eux, qui ont des séminaires et qui forment des étudiants, un peu comme une sorte d'université comme on en a maintenant, et qui, évidemment, cet ordre va utiliser cette infrastructure, si on peut parler ainsi, pour se diffuser dans le monde. Alors, la Khadria insiste sur la philanthropie, sur l'humilité, sur la piété, sur la modération et sur la flexibilité pour permettre à chaque groupe de développer ses propres rituels, en particulier les zikrs. Alors, les zikrs, ce sont des récitations rituelles à la gloire de Dieu ou du prophète, ou de tout autre saint associé à Dieu et ou au prophète, et donc de faire en sorte que ce zikr mobilise les fidèles de façon rituelle après la prière pour permettre une sorte de symbiosis à l'intérieur du groupe. Et c'est un peu comme ça que la quadrilla va se développer. Donc il faut noter sa flexibilité, il faut noter sa capacité d'accueillir tout le monde, et aussi sa philanthropie, mais aussi son adaptabilité à des données régionales, qui fait que c'est une confrérie qui va pouvoir s'adapter à beaucoup de régions. Et d'abord, elle va s'étendre en Perse. Donc, Abdelkader El-Djelani lui-même donc a vécu en Perse, mais aussi en Afrique du Nord, et de l'Afrique du Nord va traverser le Sahara pour venir en Afrique occidentale. Alors là, l'une des particularités de la quadrilla en Afrique de l'Ouest, c'est l'utilisation de la tabla, c'est-à-dire le grand tambour rituel qu'on retrouve un peu partout dans le Moyen-Orient, mais aussi dans le nord de l'Inde et tout ça. Donc, pour ponctuer le zik avec le battement de la tabla. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu sa particularité, et qui fait que, donc, en Afrique de l'Ouest, où bien entendu, on avait déjà des groupements autour de l'initiation, donc les groupes d'âge, les groupes d'initiation, mais aussi l'utilisation du tambour comme instrument de musique, non seulement pour distraire, mais aussi pour mobiliser, pour instruire. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui font que la quadrilla va être presque parfaitement adaptée à l'Afrique occidentale lorsqu'elle y arrive.
Alors, les pratiques mystiques soufis, telles que les chants et les méditations spirituelles, avaient-elles un rôle central dans la vie quotidienne des communautés musulmanes locales à l'époque d'Askia Mohamed?
À l'époque d'Askia Mohamed, ce sont plutôt les élites qui pratiquent cette forme de soufisme. D'une part, parce qu'elles sont au courant que ça existe. Et d'autre part, elles sont en relation avec des élites maghrébines qui sont déjà intéressés et sont déjà pratiquantes de ces pratiques. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte d'élite nord-africaine et soudanienne qui se retrouve dans le soufisme. Et ici, dans ce cas précis, dans la quadrilla, parce que ça permet d'approfondir aussi ces relations, parce que ces cercles de prière, ces cercles de dévotion, permettent aussi à des individus d'origine différente de se retrouver, disons, de façon prolongée, plus que simplement par la prière quotidienne, qui est une pratique, comme je dis, un peu mécanique et qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, l'espace soufi devient un espace d'enrichissement spirituel transnational, à l'intérieur d'une élite, mais qui peut se diffuser rapidement chez ce qu'on peut appeler le peuple ordinaire, en particulier en utilisant le battement de la tabla, en utilisant les chants a cappella qui sont pratiqués par les khadres, sont les adeptes de la khadria, on les appelle les khadres. Donc, les gens ordinaires qui peut-être ne sont pas aussi éduqués que les élites peuvent suivre, en particulier à travers la musique et la répétition des chants. Maintenant, les, ce qui fait que les zikrs deviennent même des formes de socialisation, des formes, disons, où on entretient les festivités sans entrer en profondeur dans l'étude de l'islam, sans entrer dans les profondeurs de la genèse ou de l'exégèse des écritures. Donc ça devient rapidement quelque chose de facile à comprendre, quelque chose de facile à suivre. Et pour réciter ces zikrs et décider et danser au rythme de la tabla, on n'a même pas besoin de comprendre les mots. Et même la khadriya a aussi cette adaptabilité qui fait qu'à l'intérieur de ces zikrs, dont le vocabulaire est principalement arabe et bien entendu tiré du Coran, il y a eu aussi le vocabulaire africain. Il y a l'insertion des langues locales qui permet d'utiliser un mélange d'arabe et de langues africaines locales soutenu par le battement de la tabla.
Alors, le soufisme met un fort accent sur la purification de l'âme et la quête de la proximité avec Dieu. Comment ces valeurs soufies se sont-elles intégrées aux pratiques religieuses dans l'Empire Songhai et quel rôle a joué le tombeau des Askia en tant que lieu de spiritualité?
Alors, l'Empire Songhai est un cas intéressant parce que nous savons que la plupart des habitants de l'Empire ne sont pas musulmans et ne pratiquent pas l'islam. Mais le centre névralgique, aussi bien économique, intellectuel et politique, est musulman et pratique l'islam. Et donc, il y a ce noyau qui tient à s'étendre et à consolider son emprise sur l'État songhaï, ce qui fait que se convertir et faire partie de ces élites devient une sorte d'itinéraire pour ce qu'on peut appeler des gens ambitieux. Maintenant, Askia Mohammed lui-même a succédé à Sonny Alibert, qui, bien qu'étant nominalement musulman, voulait surtout mettre l'emphase sur sa légitimité traditionnelle. C'est-à-dire qu'il voulait utiliser la religion et les éléments, c'est-à-dire les messages de la religion musulmane, à ses fins politiques, c'est-à-dire comme une masse de manœuvre, comme des gens qu'il intègre dans son cercle, mais pour qui il n'est pas redevable. Et donc, et qu'il considère un peu comme d'ailleurs, un peu, comment dire, péremptoire, quelquefois réticent à suivre les ordres du souverain, comme tout le monde. Et c'est ce qui a donné la naissance de cette légende que Sonny Alibert n'était pas un bon musulman. Mais c'est simplement qu'il voulait que les musulmans de son royaume n'oublient pas qu'il était l'Askia, qu'il était le roi, qu'il était l'empereur, et que donc la religion venait après. Alors Mohamed Askia Touré, lui a fait un peu une sorte de virage où il met la religion en exergue et il privilégie les ulémas et il privilégie la connaissance, l'apprentissage de l'islam à travers des institutions d'enseignement supérieur. Il pratique le pèlerinage à la Mecque et fait en sorte qu'il rehausse le prestige de la pratique de l'islam dans son royaume et à la limite en fait quelque chose de requis pour les élites de l'Empire Songhai. Donc, il va nommer des administrateurs qui sont éduqués dans l'islam. Et lorsque il veut respecter les titre traditionnel, il va mettre une structure parallèle, administrative et politique, animée par des musulmans lettrés, qui donc répondent directement à ce qu'il y a à Mohammed. Donc il crée une sorte de système où le système traditionnel est supervisé par une élite musulmane qui se rapporte à la Skia. À son retour de pèlerinage, il veut copier un peu le monumental qu'il a trouvé en Égypte et qu'il a trouvé donc à Médina et à la Mecque. Et c'est dans ce sens qu'il a donc exigé donc le tombeau, ce qu'on appelle le tombeau des Askia, qui intègre des éléments d'origine africaine, des matériaux africains comme le banco, des formes pyramidales que beaucoup quelquefois pensent être une copie de ce qu'il a vu en Égypte, mais qui en même temps est quand même autochtone à la zone sahélienne. Donc une sorte de synthèse qui permet d'être à la fois musulman et africain à l'intérieur de ce complexe. Il y a des espaces de prière, il y a des espaces de rassemblement, il y a des bâtiments, et il y a bien entendu son tombeau lui-même. Et d'autres anciens par la suite vont être enterrés dans la structure. Donc, le tombeau des Askia fonctionne un peu comme les pyramides, le tombeau des rois, fonctionne comme une mosquée, comme donc au Moyen-Orient d'une manière générale, mais aussi est un dépôt politique, un lieu politique, parce que c'est le lieu où les empereurs sont enterrés et bien entendu régule l'espace, car avec sa taille, donc il rappelle la majesté, la grandeur, la splendeur des Askia. Donc il combine tous ces aspects à la fois, et c'est pourquoi c'est devenu un héritage de l'histoire de l'humanité, car il symbolise aussi bien l'héritage des Askia que l'architecture soudano-sahélienne, l'influence de l'islam sur l'Afrique occidentale et l'érection de formes, disons, monumentales qui parsèment le paysage et rappellent l'ancrage de ce pays dans l'islam, mais aussi l'ancrage de ce pays dans ses traditions pré-islamiques.
Merci professeur Mohamed Mbodj de vos éclairages sur l'influence du soufisme dans cette période fascinante de l'histoire. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. Nous reviendrons sur le même sujet pour l'approfondir davantage la semaine prochaine. Merci beaucoup, professeur Mbodj.
Je vous en prie, allez, bonne journée.
Merci. Qui a été avec vous au micro. Josèle Morissin assure la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.